de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. L'Indonésie soutient le report de l'exposition universelle de Dubaï en donnant la priorité au traitement de COVID-19. La BAD approuve un financement de 1,5 milliard de dollars américains pour surmonter le COVID-19 en Indonésie. La ministre des Finances apprécie l'intervention rapide de la BAD pour aider l'Indonésie à se couper de Corona. Indonesia Power a reçu un certificat ISO 37001-2016. L'Amérique exhorte la Chine à autoriser des experts à examiner un laboratoire de virus à Wuhan. L'OMS développe le vaccin COVID-19 en impliquant la Fondation Gates. Voici le bulletin complet. Le comité exécutif de l'Agence de l'exposition universelle a accepté de proposer le report de l'exposition universelle de Dubaï 2020 après que les Émirats arabes unis ont présenté une demande de report de la mise en œuvre de l'exposition au 1er octobre 2021, 30 mars 2022. La décision a été prise mardi 21 avril à Paris. La décision de reporter l'exposition mondiale sera prise en ligne fin mai 2020 par l'Assemblée générale du Conseil de l'exposition universelle qui compte 170 pays membres. En tant que l'un des 12 pays membres du comité exécutif de l'Agence de l'exposition universelle à la Réunion, l'illumination sociale et culturelle de l'ambassade indonésienne à Paris, Jane Rungkat, a déclaré mercredi à Antara, Londres, que l'Indonésie a souligné que COVID-19 avait fondamentalement changé la façon dont les humains interagissent, travaillent et vivent. Selon l'ambassadeur indonésien extraordinaire et plénipotentiaire en France, Armanata Nasir, l'impact de COVID-19 continuera de se faire sentir bien après la fin de la crise sanitaire. La gestion du COVID-19 et la crise économique sont les priorités de la plupart des pays, y compris l'Indonésie. Par conséquent, divers programmes et activités de l'Agence de l'exposition universelle, y compris l'exposition universelle de Dubaï 2020, sont ajustés et tiennent compte de cette situation. La Banque asiatique de développement BAD a approuvé un financement de 1,5 milliard de dollars américains pour soutenir les efforts du gouvernement indonésien pour surmonter l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, les moyens de subsistance et l'économie. Le président de la BAD, Masatsugu Asakawa, a déclaré que COVID-19 avait de graves conséquences sanitaires, sociales et économiques pour l'Indonésie, de sorte que la BAD a soutenu le gouvernement à travers ce financement, en particulier pour les groupes pauvres et vulnérables, y compris les femmes. Masatsugu Asakawa, dans une déclaration officielle reçue à Jakarta jeudi, a salué la réponse du gouvernement à la pandémie, y compris des politiques économiques et fiscales fortes et bien coordonnées. Le programme COVID-19 de réponse active et d'appui aux dépenses, soit CARES, soutiendra les plans de la relance du gouvernement visant à étendre l'assistance sociale, à accroître les ressources de prévention et de contrôle du COVID-19 et à protéger le secteur productif et les travailleurs contre le ralentissement économique. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le soutien financier de la Banque asiatique de développement BAD aiderait le gouvernement indonésien à surmonter le défi de COVID-19 en mettant fortement l'accent sur les groupes pauvres et vulnérables, y compris les femmes. Sri Mulyani, à Jakarta vendredi 24 avril, a déclaré que ce financement à des caissements rapides faisait partie d'un plus grand soutien de la BAD pour aider l'Indonésie, coordonné avec d'autres partenaires au développement. Pour information, la BAD a approuvé un financement de 1,5 milliard de dollars américains ou l'équivalent de 23 400 milliards roupias pour soutenir les efforts du gouvernement indonésien visant à surmonter l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, les moyens de subsistance et l'économie. Le soutien rapide de la BAD aidera le gouvernement à mettre en œuvre des mesures globales pour atténuer les effets négatifs de COVID-19. Indonesia Power, en tant que filiale de PTPLN Persero, engagée dans le domaine de la production d'électricité, a officiellement reçu un certificat de l'Institut international de certification de systèmes de gestion anticorruption de qualité en avril 2020 avec le numéro de certificat Mutu SMAP 029 dans le cadre des activités du siège social dans la gestion et soutenir les activités de production d'électricité, les services d'exploitation et de maintenance des centrales et le développement de nouvelles centrales. Cela fait Indonesia Power la première entreprise en Indonésie à obtenir la certification SMAP dans le secteur de l'électricité. La mise en œuvre de ce système est une preuve tangible des engagements 3T de l'entreprise, à savoir pas de corruption, pas de gratification et pas de fraude, de sorte que Indonesia Power est cohérent dans la gestion des processus commerciaux de l'entreprise qui sont propres des pratiques de corruption avec un principe de bonne gouvernance d'entreprise. Le président-directeur d'Indonesia Power, M. Asin Sidki, a exprimé son espoir car il existe différentes bases pour agir à la fois pour les employés et les partenaires commerciaux afin d'éviter la corruption. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté la Chine à autoriser les experts à examiner le laboratoire du virus à Wuhan au motif de s'inquiéter des conditions de sécurité mondiale en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, Pompeo était réticent à accuser le virus mortel de se propager dans le laboratoire à la ville Wuhan, le centre de l'épidémie, est la première fois qu'un nouveau virus corona a été découvert. Ce scénario rend les relations tendues entre l'Amérique et la Chine. Pompeo, lors d'une conférence de presse à Washington, comme l'a rapporté l'AFP jeudi 23 avril, a pris un exemple un certain nombre d'installations nucléaires dans divers endroits du monde ont également été examinées par des experts pour des raisons de sécurité. Il a rappelé que la Chine n'avait pas jusqu'à présent partagé d'exemples de virus corona détectés, connu sous le nom scientifique SARS-CoV-2. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'est engagée à accélérer le développement, la production et l'utilisation de médicaments sûrs et efficaces pour les tests de vaccins afin de prévenir, diagnostiquer et traiter les nouveaux virus corona COVID-19. Rapporté par Reuters vendredi 23 avril dans le développement de la vaccine, l'OMS a impliqué des partenaires tels que l'Alliance vaccinale Gavi, la Fondation Gates et le Fonds mondial, y compris parmi les principaux donateurs de l'Agence des Nations Unies, en plus de 194 pays membres. Le développement de ce vaccin devrait se faire sentir dans les pays pauvres. L'organisme basé à Genève a annoncé jeudi soir son initiative avec ses partenaires pour rendre la technologie de lutte contre le virus COVID-19 accessible à tous ceux qui ont besoin dans le monde. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de la régence Nduga, en province Papouasie. Les navires de transport de marchandises, en particulier les produits alimentaires de base, le mazout, soit BPM, et les matériaux de construction sont désormais autorisés à entrer en régence Nduga. La politique a été énoncée dans une circulaire du régent de Nduga datée du mardi 21 avril concernant les restrictions à l'entrée et à la sortie des personnes et la fermeture des navires à passagers. Le régent de Nduga, Yairus Gwijangge, a expliqué que la prolongation de la fermeture des navires à passagers et la limitation du temps pour les activités communautaires était un effort pour prévenir l'impact de COVID-19 à Nduga, parce que le nombre de corona se propage dans la province Papouasie, a augmenté et s'est propagé dans plusieurs régions. Ensuite, l'info de la région Situbondo, Javaès. Le groupe de travail sur la manipulation de COVID-19 à Situbondo, Javaès, a établi une cuisine publique pour aider les pauvres économiquement touchés par le nouveau type de pandémie du virus corona ou COVID-19. Le régent de Situbondo, Dadang Vigiarto, mercredi 22 avril, a expliqué que cette cuisine publique est un moyen de connaître l'impact économique de l'épidémie de corona sur les pauvres ou les pauvres vulnérables. Le régent a déclaré que 1000 paquets de riz emballés dans une cuisine publique seraient distribués de maison en maison, y compris également les résidents qui se déplacent dans la ville, tels que les chauffeurs de pédalo, les préposés au stationnement et les commerçants du marché. Il a expliqué que si les résultats de l'évaluation prouvent que le paquet de riz est très bénéfique pour les pauvres touchés, alors la cuisine publique sera exploitée tous les jours. Mais si ce n'est pas vraiment nécessaire, la fourniture de riz emballé se fera 3 fois par semaine. La dernière info est venue de Surabaya, Javaès. Ce ne sont pas seulement les employés qui jouent un rôle dans protéger les soins de Java Oriental unis contre COVID-19, mardi 21 avril, les prisonniers de prison classe 1 Surabaya ont également distribué au public 1500 masques médicaux standards gratuits. Le masque est un masque produit par les résidents en famille d'accueil. L'action de distribuer les masques a été réalisée sur la rue Artéri Barou Poron, dirigée par le chef de pénitencier Tony Nainggolan. La prison et plusieurs prisonniers ont distribué des masques à chaque usager de passage. L'héroïne du centre de détention pour femmes de Surabaya, dirigé par Ike Rahmawati, ne voulait pas non plus être laissée pour compte. Tony a déclaré que la qualité des masques produits par les résidents de prison classe 1 Surabaya n'était pas inférieure à celle des fabricants. En une journée, ils peuvent produire jusqu'à 300 masques. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Serviteurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « La mort de Kiai Haji Mas Mansur » le 25 avril 1946. Il est le dirigeant musulman et le héros national. En 1921, Mas Mansur a participé à l'organisation Muhammadiyah et a réussi à renforcer l'existence de Muhammadiyah comme l'organisation Renouvellement. Après être devenu le président de Muhammadiyah, il a commencé à faire une percée politique avec succès pour les musulmans en initiant la fondation du Conseil islamique à la Indonésie avec Hashim Ash'ari et Wahab Hasbullah. Il a également initié la création du Parti islamique d'Indonésie, PII, avec Dr. Sukiman Wiryasanjaya comme un équilibre sur une attitude non-coopérative du Parti Syarikat Islam Indonesia. Lorsque la guerre d'indépendance a éclaté, Mas Mansur a encouragé les jeunes de poser l'arrivée de l'armée néerlandaise. Il a été arrêté et emprisonné par des soldats néerlandais. Mas Mansur est mort dans la prison. Il a été nommé comme le héros national. Serviteur, l'autre information est sur les manifestations anti-guerre du Vietnam qui a eu lieu aux États-Unis le 25 avril 1971. Le 25 avril 1971, des protestations massives contre la guerre du Vietnam ont eu lieu à Washington, les États-Unis. La manifestation a réuni environ 200 000 personnes. C'est l'une des grandes réactions montrées par le peuple américain sur les politiques de guerre prises par le gouvernement au Vietnam. Dans la guerre du Vietnam, qui a été commencée en 1964, les États-Unis ont envoyé 500 000 soldats et des dizaines de milliers d'entre eux ont été tués ou blessés. Cette condition a fait les États-Unis à retirer ses troupes du Vietnam en 1975. L'autre information est sur l'échec de l'invasion américaine en Iran le 25 avril 1980. Après le renversement du régime Shah Pahlavi, étant soutenu par les États-Unis, ce pays a toujours essayé de détruire la République islamique de l'Iran. Les États-Unis utilisent son ambassade en Iran comme un centre d'information et d'espionnage. Les étudiants de défenseurs de la révolution islamique ont occupé l'ambassade. Le gouvernement américain, avec divers plans militaires et de renseignement et l'utilisation de matériel militaire le plus sophistiqué, a fait une stratégie pour la libération des otages. Le 25 avril 1980, les Américains, en utilisant des hélicoptères et des avions, ont essayé d'envahir l'Iran. L'objectif principal de la mission des troupes américaines est de sauver leurs espions qui ont été pris en otage à l'ambassade américaine à Téhéran. Mais, de manière inattendue, avant le début des opérations militaires, un cyclone a frappé le désert autour de la ville de Taba, qui est utilisée comme la base des troupes américaines. Un certain nombre d'avions sont entrés en collision, puis écrasés et abrûlés, et quelques soldats américains sont morts. Le reste a fui du territoire iranien. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta.
Voilà la chanson de Ahmad Dhani, dont le titre est « Bunga Terakhir » ou en français « La dernière fleur ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Et la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici mon Indonésie et en titre, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative prépare des mesures d'atténuation en période de pandémie. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Agence du Tourisme et de l'Économie créative, a établi des étapes stratégiques pour le secteur du tourisme et l'économie créative pendant la période d'intervention d'urgence du COVID-19. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, chef de l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative, Wisnutama Kusubandio, dans un communiqué mercredi à Jakarta, a déclaré que le gouvernement avait divisé les trois étapes de la gestion du COVID-19, à savoir la réponse d'urgence, la récupération et la normalisation. Il a réaffecté le budget et mis en œuvre un programme spécial pendant la période d'intervention d'urgence du COVID-19. Au cours des interventions d'urgence, des programmes ont été mis en place qui comprennent la fourniture de locaux d'hébergement, de transport et de consommation pour le personnel médical et le personnel de soutien de l'hôpital de référence pour la manipulation du COVID-19 conformément aux recommandations du groupe de travail sur la gestion de l'accélération dans le COVID-19. Jusqu'à présent, plus de 2000 agents de santé à Jakarta ont été assistés en collaboration avec l'hôtellerie et les transports. Cette coopération est également une forme d'appui du ministère du Tourisme et de l'Économie créative à ces secteurs afin qu'ils puissent continuer à embaucher leurs salariés. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Agence du Tourisme et de l'Économie créative, a également déployé de manière indépendante un programme visant à autonomiser les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, dans le secteur du tourisme et de l'économie créative. Parmi eux, à travers la campagne nationale Gerakan Masker Kain, Gerakan Lauk Siap Saji et Gerakan Satu Dalam Kopi qui vise à faire bouger l'économie dans la période de gestion de l'impact de COVID-19. Gerakan Masker Kain vise à se procurer 1 million de masques en tissu à l'échelle nationale. Dans le programme, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative fait participer des MPME du secteur de l'économie créative. Ils peuvent donc continuer à gérer leurs entreprises au milieu d'une pandémie et les produits fabriqués sont également très utiles pour prévenir la propagation du COVID-19. La même chose sera également effectuée dans Gerakan Lauk Siap Saji. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Agence du Tourisme et de l'Économie créative, collabore avec les entrepreneurs du secteur alimentaire, les MPME touristiques et l'économie créative de la région pour préparer la nourriture des personnes concernées, à la fois la communauté touristique et l'économie créative elle-même, et la communauté dans son ensemble. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et soutenu par Tokopedia, a déployé la campagne Satu Dalam Kopi comme un effort conjoint pour faire avancer le café de l'archipel tout en faisant bouger l'économie des acteurs nationaux de l'industrie du café pour continuer à rouler au milieu de la pandémie COVID-19. Il existe également un programme de formation en ligne gratuit pour améliorer les compétences et requalifier les praticiens du tourisme et de l'économie créative. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Wisnutama, espère que grâce à ces programmes, la communauté du tourisme et de l'économie créative sera plus compétitive et prête à s'unir lorsque la pandémie sera déclarée terminée. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous venez d'écouter la chanson de Yura Yunita et Glenn Fredly, dont le titre est Cinta dan Rahasia, qui signifie l'amour et le secret. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant la colline Banyon à Trenggalek en province Javaès. Trenggalek, qui est située à environ 200 km de Surabaya, a une attraction touristique complète, allant des plages, des grottes à la nature montagnarde. L'une des attractions à visiter est la colline Banyon, située dans le village Bidoro, district Gandusari, Trenggalek. La colline Banyon, située à une altitude
de 1575 mètres, offre de belles vues sur le lever et le coucher du soleil. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nature et qui veulent vous gâter les yeux, visiter la colline Bagnon peut être votre destination touristique. Dans cette région de la colline Bagnon, vous pouvez profiter de quatre beautés naturelles à la fois à des moments différents. À partir du soleil levant, de la terre au-dessus des nuages, du cocher du soleil et du pays des étoiles. Le lever du soleil apparaît vers 5h30, temps d'Indonésie occidentale. Le pays au-dessus des nuages peut être apprécié à partir de 5h jusqu'aux 8h, avec l'étendue des nuages qui a recouvert la zone entourant cette colline. La vue de cette colline semble très exotique le matin et l'après-midi. Pour assister à la beauté du lever du soleil, il faut bien sûr du beau temps. Le soleil levant sur la colline Bagnon est si beau. Le soleil apparaîtra entre les montagnes et les collines du côté est de la région Strangalek. Une fois satisfait, vous apprécierez le lever du soleil. Vous serez immédiatement séduit par la beauté des nuages qui recouvrent les habitants et les collines. L'épaisseur de ce nuage dépend des conditions météorologiques. Lorsqu'il pleut la nuit, le brouillard ou les nuages sont très épais, comme s'il était au-dessus des nuages. Mais si le temps est ensoleillé, cette nuit-là, le brouillard qui apparaît est généralement mince, mais la vue sur les collines du Bagnon reste magnifique. De nombreux visiteurs de la colline Bagnon profitent du charme du pays au-dessus de ces nuages pour prendre des photos. En outre, vous pouvez également ajouter au plaisir de l'atmosphère de la colline Bagnon en commandant une variété de boissons chaudes dans des étals autour du sommet de la colline Bagnon. Si le charme sur la colline Bagnon le matin fait toujours défaut, vous pouvez également profiter de la beauté du coucher de soleil. Vous pouvez regarder le coucher du soleil à cet endroit vers 17h30. Ensuite, la nuit, vous pouvez toujours profiter d'une autre beauté naturelle, à savoir les paillettes de millions de lumières dans la colonie qui ressemblent à des étoiles. Pour se rendre à la colline Bagnon, qui se trouve à environ 13 km au sud du centre-ville de Trenggalek, on peut y atteindre en moto ou en véhicule à quatre roues, mais vous devez être très prudent car la route est faite de ciment coulé, outre qu'il y a des pentes abruptes. Pour entrer à la colline Bagnon, vous n'avez pas besoin de payer. Si vous voulez passer la nuit ici, vous pouvez installer une tente sur cette colline Bagnon. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin
tahu segera. Dimanakah rumahmu, siapakah namamu, sebutkanlah ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang bertemu pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersipu pandanganku.
C'était la chanson de Fidi Aldiano intitulée « Aku Cinta Dia » ou en français « Je l'aime ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur l'Indonésie qui aura un aéroport spatial. L'Indonésie disposera pour la première fois d'un aéroport spatial. L'emplacement choisi pour l'établissement de l'aéroport spatial est Biak, Papouasie. Il y a deux aéroports à construire. Le premier est un aéroport spatial à petite échelle et un aéroport spatial à échelle internationale. Plus tard, l'aéroport spatial à petite échelle sera utilisé pour des essais de petites fusées, tandis que l'échelle internationale sera utilisée pour des essais de fusées de plus grande envergure. Actuellement, le ministère de la Recherche et de la Technologie et l'Agence nationale aéronautique et spatiale, l'APAN, se concentrent d'abord sur la construction d'aéroports spatiaux à petite échelle. Alors qu'à l'échelle internationale, ils essaient de trouver les investisseurs désireux de travailler ensemble dans cette construction. En plus d'être proche de l'équateur, la sélection du village Soukobié en région Biak Numfor dans la province papouasie comme lieu de développement de l'aéroport spatial est due à sa position d'environ 1 degré de latitude sud et face à l'océan Pacifique directement, ce qui le rend sûr pour être utilisé comme site de lancement. La PAN prévoit qu'en 2024, la construction de l'aéroport spatial pourra être achevée, bien qu'elle ne soit pas encore parfaite. La construction de l'aéroport spatial a été réalisée pour fournir plus d'espace pour le lancement de fusées à plusieurs niveaux qu'il développait également. Actuellement, la PAN développe une fusée sonde ou une fusée de recherche atmosphérique qui augmentera progressivement sa cible d'altitude. Cependant, le chef du LAPAN, Thomas Jamaluddin, a déclaré que les avantages de l'aéroport spatial étaient pour la maîtrise de la technologie et le fonctionnement des catastrophes satellitaires. Pour l'avenir, l'Indonésie, avec sa situation privilégiée sur l'équateur, peut fournir des services de lancement de fusées satellites. Jusqu'à présent, la PAN a contacté plusieurs partenaires internationaux, à la fois des institutions gouvernementales et privées de Chine, du Japon, de Corée, de l'Inde et de Russie. Certains d'entre eux, a déclaré Thomas, ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble, mais plusieurs questions plus détaillées sont toujours en cours de discussion. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku akan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Selalu sayang, hatiku kau genggam.
lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi.
Chanson de Andy dont le titre est Menunggu Kamu, qui signifie Je t'attends. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée Fajar Bhakti. Fajar Bhakti est une chanson originale de Kroncong. Elle raconte de la belle matinée d'un village situé au bord d'une colline. Quand le soleil se levait, les paysans, hommes ou femmes, petits ou grands, étaient tout prêts à aller au champ. Ils ont heureusement accueilli la matinée. Le soleil n'atténue pas leur enthousiasme à lutter pour le bonheur. Et voici Sri Widadi chantant la chanson de Kroncong intitulée Fajar Bhakti.
Wajar menyingsing
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir.